Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Naval Group va-t-il laver l'affront des sous-marins australiens? Réponse aujourd'hui aux Pays-Bas. La petite croissance française, l'objectif du gouvernement sur le PIB comme sur le chômage semble hors de portée. Et puis on vous dira pourquoi le journal Le Monde noue un partenariat avec ChatGPT. Naval Group est-il sur le point de prendre sa revanche? 2 ans après la gifle de l'annulation par l'Australie du contrat du siècle, 56 milliards d'euros, 12 sous-marins. Le constructeur français doit être fixé aujourd'hui, Augustin Lefebvre, sur un appel d'offres des Pays-Bas.
Oui, le Royaume cherche à remplacer ses 4 sous-marins vieillissants. Ils ont une trentaine d'années. L'un d'eux a même été retiré du service pour que ses pièces détachées puissent servir aux autres. Naval Group a proposé une version diesel électrique du Barracuda, dont un modèle, le Suffren, équipe déjà notre marine nationale en version nucléaire. L'entreprise est opposée à l'allemand ThyssenKrupp et au suédois Saab, mais selon la presse néerlandaise, le gouvernement d'intérim aurait choisi l'offre française. Son intention est d'aller vite sans attendre la composition d'une nouvelle équipe de technocrates qui permettrait de sortir de l'impasse politique actuelle aux Pays-Bas, puisque aucun parti n'est en mesure de gouverner après les dernières élections. Les 2 premiers sous-marins doivent entrer en service dans les 10 ans qui suivront la signature du contrat, un contrat qui est estimé entre 4 et 6 milliards d'euros. Il comprendra un accord de coopération industrielle, mais les sous-marins seront bien construits dans le chantier naval de l'entreprise retenue.
Merci Augustin Lefebvre. Et vu les montants dont on parle, cela ferait du bien à nos chiffres du commerce extérieur, mais aussi à notre PIB tout court. Et oui, on n'en est pas encore à dire que rien ne va plus, mais l'économie française donne de sérieux signes de faiblesse. Éric Mauban, l'INSEE, a publié hier sa note de conjoncture et s'inquiète d'un certain nombre de signes faibles.
Effectivement, la petite reprise prévue en décembre dernier se fait attendre. Selon l'INSEE, l'activité devrait stagner au premier trimestre pour ensuite augmenter de 0,3% au deuxième. La prévision précédente tablait sur une croissance de 0,2% pour chacun de ces 2 trimestres. L'Institut attribue ce petit retard à l'allumage à une production industrielle moins dynamique que prévu du fait des arrêts de certaines raffineries et de difficultés d'approvisionnement dans le secteur automobile. Des raisons conjoncturelles donc qui devraient disparaître au deuxième trimestre. À cela, il faut ajouter, malgré la baisse de l'inflation, une reprise de la consommation moins dynamique que prévu en raison du renchérissement du crédit. Quant à l'investissement des entreprises, eh bien, il devrait être à l'arrêt tout au long du premier semestre. En conséquence, eh bien, l'objectif du gouvernement d'une croissance du PIB de 1% cette année paraît très ambitieux.
Éric, que dit l'INSEE sur l'évolution du chômage dans les mois à venir?
Eh bien, c'est avec la baisse de l'inflation l'autre bonne nouvelle de cette note de conjoncture. La prévision de 40 000 créations d'emplois au premier semestre de cette année est toujours d'actualité. Du fait de la réforme des retraites et de la hausse de la population active, le taux de chômage devrait toutefois remonter un peu de 0,1 point par rapport à la fin 2023 pour se retrouver à 7,6% en juin, c'est-à-dire au plus haut depuis le troisième trimestre 2021. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, signalons quand même que l'INSEE observe pour la première fois depuis la crise sanitaire une amélioration de la productivité des entreprises françaises.
Éric Mauban en direct. Voilà qui pourrait contribuer à donner un peu d'enthousiasme à l'économie française. Les Jeux Olympiques, à un peu plus de 4 mois de l'événement, la sécurité est une priorité pour le gouvernement. La menace potentielle des drones, notamment, est prise très au sérieux par l'armée. Cette semaine ont eu lieu des exercices grandeur nature à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, pour éprouver le futur dispositif anti-drone. Une opération à laquelle a pu assister pour Radio Classique Eric Kuch.
Au loin surgissent 2 drones. Ils apparaissent en rouge vif sur le radar des écrans d'ordinateurs des militaires et des policiers déployés sur zone. L'alerte est donnée, ce sont des menaces.
L'ordre de brouillage est donné aux opérateurs, ils braquent les fusils brouilleurs.
Le général Arnaud Bourguignon, commandant en chef des opérations anti-drones des JO.
2 réactions différentes du drone. Le premier, il reste statique, il est brouillé, il bouge pas. Le deuxième est monté, mais il était complètement brouillé, donc il ne s'approchait pas du dispositif.
Des fusils brouilleurs, de longs rectangles au look futuriste, mettent en joue les drones et émettent des ondes, ce qui coupe la communication entre l'engin et son pilote. Résultat, menace neutralisée, comme l'explique Xavier de la police nationale.
À partir du moment où on voit le drone, on va en direction de l'objectif et on tire. De notre point de vue, on a un son qui est émis, qui nous permet de savoir qu'on a bien tiré.
En plus de ces équipes mobiles déployées sur les sites olympiques, la lutte anti-drone s'appuie sur des radars, des caméras et des brouilleurs longue portée. Cela permet de scanner l'espace aérien, créer une bulle de protection au-dessus des sites sensibles. Pour chapeauter l'ensemble, 3 centres de commandement nationaux, dont Villacoublay, le colonel Lionel Babret.
Avant de mobiliser nos efforts sur les drones malveillants, il faut déjà qu'on connaisse ceux qui sont autorisés pour la transmission des jeux, les services de l'État, etc., pour qu'on puisse rapidement mobiliser nos moyens vers ceux potentiellement dangereux.
Un premier niveau d'alerte charge ensuite aux équipes de terrain de vérifier la menace et d'agir en conséquence. Une organisation que l'on retrouvera aussi dans chaque préfecture lors des JO.
reportage Radio Classique d'Éric Cuoche. ChatGPT est le nouvel abonné au journal Le Monde. Le quotidien vient de signer un partenariat avec OpenAI. C'est le premier accord du genre entre un titre français et l'entreprise américaine, leader de l'intelligence artificielle générative. OpenAI pourra donc désormais utiliser tous les articles du Monde pour entraîner ses algorithmes. Et ChatGPT devra renvoyer ses utilisateurs vers le site du journal Le Monde quand il l'utilise comme source. Est-ce que cela va créer un précédent, Zoé Pallier?
L'annonce du journal Le Monde a pris de court plusieurs de ses concurrents, car la plupart des autres médias cherchent aujourd'hui à se protéger de l'intelligence artificielle. Ils empêchent les robots de récupérer et d'exploiter les données de leur site internet. Le Monde a pris la même mesure l'an dernier pour négocier ensuite la levée de l'interdiction. Siméon Campos, fondateur de l'organisation Safer AI.
Le Monde choisit la coopération, là où par exemple le grand journal américain, le New York Times, a choisi d'attaquer en justice pour violer de droits d'auteur. Et jusque-là, la coopération, c'est plutôt l'exception que la norme.
Mais en Europe, OpenAI a aussi signé un accord avec l'espagnol Prisa et l'allemand Springer pour plusieurs dizaines de millions d'euros par an, d'après le Financial Times. Emmanuel Parodi, secrétaire général du groupement des éditeurs de services en ligne.
Une intelligence artificielle a besoin de se référer à un très grand nombre de sources d'informations. On sait à l'avance que son intérêt, c'est d'avoir des accords avec le plus grand nombre possible d'éditeurs qui travaillent sur des domaines spécialisé. Donc d'un point de vue industriel, des accords individuels n'ont pas de sens. Il faut des accords collectifs.
Depuis des mois, des juristes étudient d'ailleurs cette possibilité d'action groupée. L'annonce du Monde va sans doute accélérer la procédure, confie un futur négociateur.
Zoé Pallier, notre coup d'œil au marché comme chaque jour. Le Dow Jones a reculé de 0,35% hier, comme le Nasdaq. Le CAC 40 a progressé de 0,29%. Encore un record donc. 8161 points pour le CAC en clôture. Et le Nikkei en ce moment recule d'un demi%. L'euro vaut 1,0877, il a légèrement baissé. Le baril de Brent, le pétrole, est à 85 $. Dans quelques secondes, c'est David Abiker.